Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe l'émission Parlons-nous du jour que vous avez écouté en direct ou en podcast. Je suis Paul Delaire et je suis ravi de vous retrouver, tout comme je suis ravi de faire ce podcast avec Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
Ah bah écoute, c'est gentil, bonsoir Paul.
Les compliments ça change hein, t'as vu ça?
C'est vrai, c'est bien agréable.
André est veuve depuis décembre dernier, ensemble depuis plus de 20 ans et très fusionnel. Il est évidemment très affecté par la perte de sa femme. Et avec le deuil, la solitude s'est installée dans sa vie. Il regrette de ne plus autant voir ses enfants et les enfants de sa femme.
Oui.
On l'entendait dans le témoignage d'André, quand on dit que vraiment on perd sa moitié, c'était le cas. Ils étaient très fusionnels,
oui.
C'était presque au sens propre, il perdait sa moitié, André.
Oui, ça... mais de fait, la perte d'un conjoint nous confronte à un abîme de douleur, c'est l'effondrement d'un monde, de notre monde, et André le disait, c'est-à-dire qu'il y a,
qu'on a construit en plus.
Mais c'est ça, il y a l'autre n'est plus là, il y a cette absence, il y a la maison qui est vide, il y a tous ces actes du quotidien, toute cette routine sécurisante, tous ces moments d'échange, de partage, toutes ces choses aussi où ces décisions à prendre, où on peut s'appuyer sur l'autre, que ce soit des partages de choses agréables, mais comme de corvées, on est deux, et là, on est seul. Seul, et dans un monde qui peut nous paraître hostile, enfin... C'est un peu de nous qui part. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, il y a la douleur de la perte de l'être aimé, mais il y a aussi la douleur de la perte du couple, de tout ce qui faisait le couple.
C'est d'autant plus difficile à supporter pour André que les enfants sont grands et qu'à la maison, voilà, il est seul. C'est ce qu'on disait, c'est que c'était la solitude qui lui faisait aussi énormément mal.
C'est ce qui revient beaucoup dans les témoignages. On l'entendait également quand Sophie...
Qui a appelé 09 69 39 10 11.
Oui, pour réconforter André, mais aussi pour partager avec nous tout ce chemin qu'elle avait dû faire. Et c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire cette solitude qui s'abat sur les personnes endeuillées. Alors, la journée, comme elle dit, certains arrivent, il y a l'agitation, il y a la vie dehors, mais c'est les soirées. Le soir, se retrouver seul à table pour le dîner, le moment du coucher. Et c'était touchant, d'ailleurs. Beaucoup de personnes nous ont dit... Elle n'arrive même plus à regarder la télé, alors qu'on pourrait penser que la télé, justement, c'est les images, ça crée une présence.
Ça divertit même, ça permet d'oublier un petit peu.
Et en fait, beaucoup nous disaient, écoutez la radio. Alors, certains disent, il y a un bruit de fond, il y a quelque chose dans cette maison qui n'est plus pas silencieuse. Mais je crois qu'il y a aussi, ces voix. Et il y a ce pouvoir de voix aussi qui rassure, d'une certaine façon.
C'est pas si évident quand on est dans ce genre de situation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'atténuer cette solitude, de finalement reprendre un peu la marge de la vie après une épreuve comme celle-ci?
Il est important de s'occuper de soi. S'occuper de soi, c'est veiller, faire attention à son sommeil, ne pas s'épuiser, parce qu'on est déjà épuisé émotionnellement. S'occuper de son alimentation. Je dis ça parce que le deuil, on entend ce qui revient, c'est évidemment la tristesse, c'est le chagrin, c'est la solitude. Mais le deuil, c'est un processus complexe qui va nous affecter à plusieurs niveaux, émotionnellement, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que on peut perdre le sommeil ou au contraire ne plus arriver à sortir de son lit, ne vouloir se dormir, oublier. Certains
comme une dépression.
Ah oui, 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 mais qui est très, enfin c'est quelque chose. Ça peut évoluer vers la dépression, mais dans les premiers temps, c'est pas de la dépression, c'est qu'on est anéanti en fait. On peut être. Certains n'arrivent même plus à se nourrir. On des nausées, donc s'occuper de soi, ça prend tout son sens. redoubler d'attention, s'occuper de s'obliger presque à...
Oui, parce qu'on aurait tendance à se dire à quoi bon maintenant.
Voilà, c'est
on
ça.
On laisse les choses filer, tout part à volo, et puis voilà, et puis c'est pas bien grave. Non, finalement, il faut réussir à garder un peu ce cadre de s'occuper de soi, de faire attention.
De son sommeil, de son alimentation, petits rituels peut-être qui peuvent un peu aider à passer la journée.
On souffre déjà assez pour pas en plus se faire souffrir soi-même, c'est ça. Et donc il faut prendre soin de soi.
Oui, c'est-à-dire que... Il nous le disait, André, son épouse occupait toutes ses pensées. Il arrivait plus à se concentrer. Enfin, mais justement, ça demande presque s'imposer de ça va pas. Parfois, on peut se refuser à aller mieux, comme si
C'est-à-dire.
Commencer à aller mieux, c'est-à-dire que la souffrance, c'est ce qui nous relie. À celui qu'on aimait ou à celle que l'on aimait.
C'est un peu culpabiliser de continuer à vivre, c'est ça.
Et aller mieux, c'est. Enfin, ou même. Parce qu'au départ, c'est de la survie. On est dans la survie, plus que dans la vie. Et dans la survie, il y a ces besoins essentiels que sont le sommeil et l'alimentation. Et donc, se forcer. Alors, ça peut être parfois, justement, c'est là où les autres, le soutien des autres, je pense à la famille, les enfants,
les amis.
Mais Patrick, bon, dont l'épouse est hospitalisée, qui nous parlait hier de sa solitude, nous disait, heureusement, j'ai un bon voisinage. Les voisins ont un rôle là, de soutien. C'est-à-dire, ça peut être inviter quelqu'un à déjeuner, à dîner, parce que souvent, même si on n'a plus du tout d'appétit, le fait d'être accompagné, de passer un moment un peu affectif, affectueux, ça peut permettre un peu de s'alimenter.
Sur l'entourage, je voulais justement y revenir parce que on entendait André qui disait que les amis, la famille n'étaient pas forcément toujours un bon soutien.
Oui, c'est vrai. Ça peut arriver, malheureusement.
Oui, et comment on peut aborder justement les interactions, le lien avec l'entourage?
C'est compliqué parce que André nous le disait très justement, les amis, mais les gens de façon plus générale ne savent pas toujours comment se comporter.
Oui, c'est ça.
Alors, ça peut être aussi ce que l'on voit malheureusement, c'est que il peut y avoir le risque quand on est veuf ou veuve, c'est un peu d'être exclu de la vie sociale. Beaucoup de personnes disent que dans les premiers temps, surtout quand on a des amis, des couples d'amis, dans les premiers temps, ils vont inviter la personne qui est veuve. Et puis, au fil du temps, ça va un peu s'effilocher. Parce que malheureusement, de veuve, la personne se retrouve célibataire. Et il y a des couples qui sont un peu perdus, qui sont habitués à se recevoir en couple, mais qui peuvent même, pour qui la personne qui est seule peut représenter un peu une menace. Ça peut aller jusque-là pour le
couple. Ah oui, jusque-là.
Ah ben certains disent, des femmes notamment nous disent qu'elles ne sont plus invitées parce que, au fond,
il y a une rivalité qui s'est.
Comme si finalement, oui, elle représentait un peu une menace pour ces couples-là. Mais pour l'endeuillé lui-même, il peut avoir peur de déranger. Avec son chagrin, sa tristesse, dire est-ce que j'ai le droit de parler de celui qui n'est plus là.
Tout un tabou autour finalement de ça dans les relations amicales, alors moins familiales évidemment, mais il y a aussi peut-être aussi un moment chez les amis, une impatience, commencer à trouver le temps long en se disant oui, on parle toujours de la personne décédée. Et puis au bout d'un moment, bon, passons à autre chose. Il y a peut-être un peu ça chez les amis.
C'est-à-dire que oui, et c'est souvent, André disait finalement qu'il se sent plus mal au bout de presque 6 mois qu'au début. Mais parce que au début, alors déjà, il faut le temps. Là, il a vraiment intégré l'absence. Et puis souvent,
six mois, c'est rien sur plus de 20 ans de vie.
C'est rien du tout. C'est rien. Ça fait même pas 6 mois, ça fait 5 mois d'ailleurs, puisque c'était en décembre. Et au début, les gens sont plus présents. Et puis après, les gens reprennent le cours de leur vie. Mais soi-même, quand on a, je pense, des couples amis, ça peut être très dur quand on est endeuillé de... bah, d'être confronté au bonheur conjugal des autres. Quoi. Mmh. Ça ravive la blessure. Et c'est là où il est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec ses amis, évidemment. Il ne faut pas se priver de soutien. Mais ça peut être aussi songer à s'en faire d'autres.
Oui, une occasion de... Mais il y a beaucoup de gens hein, qui, dans les témoignages, dans les oui. réactions... Oui. Suggérait, plus que suggérait d'ailleurs, conseillait de se faire de nouveaux amis.
C'est ça, à travers des activités parfois nouvelles, parce que ces personnes-là ne nous ont pas connus en couple. Elles nous rencontrent, mmh. elles rencontrent la personne à ce moment-là de sa vie, mais il n'y a pas toujours l'autre qui est évoqué. Je pense à Alain, un auditeur qui nous avait appelé, qui était plongé dans un...
Dans la même situation qu'André.
Ah oui, exactement, dans un abîme. Enfin, là, ça peut mener au bord du précipice. Mmh. Enfin, il ne trouvait plus de sens à sa vie. Il disait que lui, ce qui lui avait... redonner goût à la vie, c'était de faire partie d'un club de marche. Et en fait, ce qu'il disait était très joli parce que il disait qu'à travers les conversations, à travers ces personnes qu'il avait plaisir à retrouver, il avait le sentiment de compter à nouveau aux yeux de quelqu'un. Mmh. Et c'est souvent, en fait, c'est...
Finalement, de un peu réexister par lui-même.
C'est ça. Et puis, ce qui est important dans ces moments où on a l'impression que sa vie n'a plus de sens, c'est aussi le sentiment d'être utile encore. C'est pour ça que certaines personnes s'investissent dans des associations, mmh. enfin, c'est-à-dire redonner du sens, se reconstruire, ça passe aussi par... en fait, réorganiser cette nouvelle existence et lui donner un nouveau sens. Et
oui, pour finalement, cela, c'est réorganiser sa vie autour de soi et plus autour de nous, du couple, en fait.
C'est ça. Tout en se disant que ça ne veut pas dire qu'on oublie, mm-hmm. évidemment, l'être aimé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de chagrin et de tristesse. Elle nous le disait, Sophie, qui a fait preuve d'une très grande volonté, parce mmh. qu'elle s'est accrochée pour se remettre debout, mais elle dit qu'il y a encore des moments où elle se retrouve, ou quand elle est seule, elle lâche, elle pleure, ou elle est envahie par des vagues de tristesse.
Il n'y a pas de bien ou pas bien.
Mais non, voilà. C'est inévitable. Parce qu'en plus, la mort, ce n'est pas la fin de tout, ce n'est pas la fin de l'amour, ce n'est pas la fin du lien conjugal. Oui. J'ai plus la formule, il y avait quelqu'un qui disait l'être aimé n'est plus là, mais il est dans la pièce d'à côté, mais comme si on ne pouvait plus le voir. Y a quelque chose de l'ordre de l'invisible, mais il y a un lien qui se maintient. Et
la personne qui reste en vie aime toujours la personne qui est partie.
Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire que aimer cet autre qui n'est plus là, c'est aussi, en fait, il faut pouvoir trouver aussi une bonne distance, une juste distance, pour pouvoir à nouveau être dans ce mouvement de la vie, pour que la personne disparue n'envahisse pas tout, même si dans les premiers temps, elle est tellement ancrée dans le quotidien de l'endeuillé, et la douleur est si intense qu'il peut y avoir dans ces premiers temps du deuil, ce qu'on appelle des phénomènes d'hallucination visuelle, auditive. Ah oui, il peut y avoir la personne a le sentiment que l'être aimé est toujours présent. Alors pour certains c'est angoissant, pour d'autres c'est apaisant. De ces ressentis-là. On le voyait d'ailleurs, chacun vit, c'est très intime, hein, le deuil. Sophie nous disait qu'elle avait éprouvé, elle, le besoin de ne pas conserver les habits de son mari.
C'était la question que je me posais justement.
Oui.
C'était la question que je me posais. C'est encore une chose, hein, est-ce qu'il y a quelque chose de bien ou de pas bien à faire? Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse, mais. Toutes les affaires, les biens, les souvenirs, toutes ces choses qu'on a à la maison, est-ce qu'il faut les garder ou est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Ouais. Chacun fait comme il le ressent le mieux pour lui. Sophie nous disait, elle s'est dit, elle a fait dans la semaine qui a suivi, ce qui peut paraître très tôt. Mais en fait, elle, derrière cela, elle disait, si je ne le fais pas maintenant, je n'y arriverai pas. Mmh. Là où d'autres, c'est inconcevable de se séparer dans les premiers temps des vêtements, des objets, des affaires personnelles. Sophie nous disait qu'elle avait conservé des choses qui avaient un lien.
Oui, après, on peut garder un peu et pas tout, bien sûr, il y a de la mesure.
Oui, et d'ailleurs, même des années après, un objet qui est particulièrement associé à l'être aimé disparu peut faire jaillir une vague d'émotions, enfin, que ça soit, ça peut être une paire de lunettes, ça peut être quelque chose où tout d'un coup tout ressurgit et où c'est important de, à travers ce qui est un objet, il y a toute une symbolique et c'est important aussi de pouvoir évoquer la personne disparue, de pouvoir en parler, parce que au fil du temps, généralement, ce que l'on voit là, dans les premiers temps, la douleur est tellement atroce que parfois certaines personnes ne peuvent même pas l'évoquer, en parler. Au fil du temps, à nouveau, il y a des souvenirs heureux qui peuvent émerger et qui témoignent aussi de la puissance de ce lien d'amour et de ce qui a été vécu.
Et chacun vit son deuil comme il le peut,
oui,
surtout.
Oui.
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de vivre son deuil. Il y a pas de. Il s'en remet vite.
Mais non, les jugements, là, c'est. Il faut vraiment être extérieur et pas concerné pour émettre de tels jugements.
Ouais. Et avant de se quitter, tu avais peut-être un livre à conseiller.
Le livre de notre ami Christophe Forêt,
oui.
Qui a...
Qu'on cite à chaque fois, mais parce que c'est une référence.
Oui, mais parce que c'est une référence vraiment, et on voit à travers les retours des auditeurs, que ce soit dans leur courrier, dans leur mail, disent que cela leur a aidé comme une boussole, comme un point de repère, quand à un moment on se dit, est-ce que je suis en train de perdre pied, de vaciller, de devenir fou même, parce qu'on peut, on a la douleur est telle que parfois on peut avoir le sentiment de devenir fou. Donc, vivre le deuil ou jour le jour de Christophe Fauré chez Albin Michel. Et puis un autre livre aussi, moi, qui m'a beaucoup émue et je trouve un livre très réconfortant de Delphine Horwiller, qui est une femme rabbin et qui donc, de par son métier, côtoie beaucoup la mort et les personnes endeuillées. Et c'est un très joli livre qui s'intitule « Vivre avec nos morts, petit traité de consolation ». C'est aux éditions Grasset.
Merci beaucoup, Caroline.
Merci, Paul.
Carole s'inquiète pour son père parce qu'il semble que l'influence de son ami d'enfance soit néfaste pour lui. Daniel a vécu de grands chamboulements dans sa vie. Il vit depuis plusieurs mois dans la rue, tout comme Annie qui a souhaité réagir au témoignage de Daniel. L'application RTL ou toute plateforme de podcast pour les écouter. parlons-nous@rtl.fr. Si vous vivez les mêmes situations et que vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, écrivez-nous. Vous pouvez aussi nous appeler au 09 69 39 10 11. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très vite.
À très vite. Parlons encore.